Continuons la lecture des passages qui sont proposés. 1 Corinthiens 6, verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. Les viandes pour l'estomac et l'estomac pour les viandes, mais Dieu mettra à néant et celui-ci et celle-là. Or le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 13. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Romains 8, verset 9. Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous.
Puisque Dieu nous a constitué corps, âme et esprit, on pourrait penser que l'esprit nous mettant en relation avec Dieu, le corps n'a pas beaucoup d'importance. Puisque ma relation personnelle avec Dieu se fait à travers, on pourrait dire, l'esprit, alors je pourrais faire ce que je veux de mon corps. Et finalement, tous ces versets nous rappellent que justement, il y a un lien très fort. Donc la personnalité entière, c'est corps, âme et esprit. Et ce que je fais de mon corps physique, humain, a de l'importance aux yeux de Dieu.
Et c'est intéressant et très approprié que ces instructions sont données dans cette épître aux Corinthiens pour deux raisons. La première raison, c'était la philosophie grecque qui disait justement ce point, le corps, c'est le tombeau de l'âme. Alors, dans ce système, le corps n'a aucune valeur et la meilleure chose qui peut arriver, c'est d'être libéré de son corps. Et pendant qu'on a son corps encore, on est dans un sens, les philosophes disaient, on est dans une prison. Alors, c'est complètement opposé, comme notre frère l'a dit, à la doctrine chrétienne qui dit que le corps a une valeur. Et ce que nous en faisons, c'est important. Et la deuxième raison, c'était bien sûr que ces croyants à Corinthe se trouvaient au milieu d'une grande immoralité. En fait, si on regarde juste avant, dans le verset 9, Paul parle des fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, etc. Et puis il dit, dans le verset 11, « Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. » Alors, les Corinthiens avaient été sauvés, ils étaient dans le paganisme, ils étaient environnés par cette immoralité, et ils avaient été impliqués. Alors, Paul dit, vous étiez, quelques-uns parmi vous, vous étiez de tels. Mais c'est beau de voir dans le verset 11 qu'il dit, mais vous avez été trois choses, lavé, sanctifié et justifié. On pourrait dire, lavé moralement, sanctifié, alors, on a été mis à part et justifié, on a été déclaré non plus coupable devant innocent. Bon, pas innocent, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a été justifié devant le juge. C'est un problème de la cour de justice et on a été déclaré juste. Et c'est ça le fondement. Et sur ce fondement, Paul donne maintenant des instructions sur cette question du corps et le problème de l'immoralité. Mais il donne la réponse sur un niveau très élevé. Il ne dit pas seulement qu'il y a des choses qui sont défendues, mais il développe la vérité chrétienne. Il dit, il y a le Saint-Esprit qui habite en vous, vous êtes liés avec le Seigneur et à cela se rattache une responsabilité quant à notre vie pratique.
Le corps a effectivement une grande importance puisque l'homme a été formé par Dieu, corps, âme et esprit. Le corps d'Adam était le corps de l'homme innocent, sorti des mains de Dieu. Le corps de tous les descendants d'Adam est le corps de l'homme pécheur, le corps dans lequel nous mettons nos membres au service du péché. Le corps de Christ, formé d'une manière admirable par Dieu lui-même, est le corps du seul homme saint, conçu du Saint-Esprit, loin de l'Esprit-Saint, et en qui l'Esprit est venu habiter d'une manière unique, au moment du baptême du Jourdain. Le corps du racheté est effectivement le corps de l'homme racheté. Il est encore marqué par les faiblesses et les infirmités du corps tel que nous l'avons hérité à notre naissance, mais c'est le corps d'un racheté, c'est le corps de ceux qui ont été achetés aussi. Nous avons été achetés à prix. Et notre corps appartient à Dieu, et comme nous le voyons aussi, nos corps sont des membres de Christ. Donc il y a maintenant une relation qui a été établie par Dieu avec notre corps. Notre corps appartient à Dieu. Avec Christ, nos corps sont des membres du Christ. Et notre corps va devenir un temple du Saint-Esprit, contrairement au Seigneur, bien sûr, sur qui l'Esprit est descendu en vertu de sa perfection absolue. L'Esprit vient habiter en nous en vertu de l'œuvre de la rédemption du sang de Christ au profit, au bénéfice duquel nous avons été placés. Mais le corps est donc un sujet important et on peut ajouter, on l'a vu dans le dernier passage, dans le passage de l'Épître aux Romains, on peut ajouter que Dieu a, si on peut dire ainsi, un projet pour notre corps. Nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps et dans la gloire, nous recevrons ce corps nouveau, rendu dans la conformité du corps de Christ, corps glorieux de Christ. Parce que Dieu nous a racheté esprit, parce que l'œuvre de Christ nous a racheté esprit, âme et corps. Notre esprit et notre âme peuvent déjà entrer dans toutes les bénédictions, même si c'est bien sûr faiblement que nous le réalisons, mais nous pouvons entrer dans notre esprit, dans les bénédictions de cette rédemption et de ce rachat divin. Dieu finira, si on peut dire, son travail et cette conformité des rachetés à Christ dans la délivrance et dans la glorification de notre corps. Le Seigneur lui-même viendra et nous serons revêtus d'un corps qui sera conforme au corps de sa gloire. Donc on voit que depuis la création jusqu'à la gloire, Dieu a une pensée pour notre corps. Il ne dissocie pas notre corps de notre personnalité, et au contraire, il va, là où le péché a déshonoré l'homme et le corps de l'homme, Dieu va apporter cette gloire immense, d'abord cette valeur d'un corps qui a été acheté pour Dieu, et puis aussi cette gloire immense que nos corps sont les temples du Saint-Esprit.
Très courtement, juste un verset par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'esprit, l'âme et le corps. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps soient tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Esprit, âme et corps sans reproche pour le Seigneur.
Dieu, il a créé l'homme dans son image. Il faisait un ouvrage admirable. Les médecins peuvent certainement le confirmer. Comment ce corps, il travaille. Et dans ce corps, il y avait donc le Seigneur Jésus est devenu homme pour montrer dans ce corps ce que Dieu il est. Dans un corps humain, c'était la déité habitée dans ce corps. Et on l'a vu, on a pu l'admirer, on l'a pu toucher dans le Seigneur Jésus qui est venu dans cette forme d'un homme. Et maintenant, Dieu, il prend cette image du corps pour montrer qu'est-ce que c'est l'assemblée aussi. Il est la tête de son assemblée et nous formons, c'est le corps de Christ. Nous formons, tous les croyants forment le corps de Christ avec lui, la tête. Et c'est un ensemble, une création. Dieu l'a créé aussi, ce corps de Christ. Et nous sommes partis de cela. Et notre frère l'a rappelé, nous lui serons semblables, nous le verrons comme il est, et nous lui serons semblables dans un corps glorifié. Et comme il nous a fait dans son image maintenant, et comme Dieu était ici corporellement sur cette terre, il nous a mis maintenant notre corps, il l'a destiné pour être le temple de la personne de Dieu, dans l'esprit, une personne de Dieu, l'esprit habite en nous comme le temple où il veut se manifester, il veut recevoir de l'adoration, d'un service pour lui. C'est insondable, incompréhensible que nous sommes le temple de Dieu. Et c'est pourquoi, juste dans cette épître, où il y a tellement de choses, aussi il y a division, il y a un péché dans l'assemblée, un péché le plus fort possible, qui est l'adultère, parce que c'est un péché contre le corps, et c'est là où Dieu il nous doit le dire, ne savez-vous pas? Et ça doit parler à nos cœurs. Dans cette épître, je ne sais pas combien, je crois c'est plus que 12 fois que c'est dit, ne savez-vous pas? Et ici, en relation du corps, ce passage que nous venons de lire, il y a 3 fois, ne savez-vous pas? Et nous, qui savons tout, parce que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous devons le savoir et nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Et c'est ça ce que nous est rappelé aujourd'hui encore une fois.
On comprend que cette question, elle est encore très actuelle, la question de nos corps. On a évoqué les questions d'immoralité, de ce qu'est la fornication. On a parlé d'adultère. Et on sait que, même si on n'aime pas bien parler de ces choses en public, on sait qu'on vit dans un monde où ces aspects de l'immoralité deviennent de pire en pire, si on peut dire ça comme ça, avec les questions d'homosexualité qui sont étalées et qui sont justifiées, soutenues. Et on a même les questions de changer de genre. C'est des questions qui sont importantes parce que nos enfants dans les écoles, on leur aborde déjà ces sujets-là. Et on leur présente ça comme une option possible. On peut, si on veut, changer de genre. Et en fait, on se rend compte à la lumière de l'Écriture que le sujet de nos corps, c'est quelque chose de très sérieux, de très saint. Et on ne fait pas n'importe quoi de nos corps. Et ils sont appelés à être aussi au service du Seigneur. On peut penser aussi aux questions de gourmandise et de s'enivrer. Ça aussi, ce sont des choses qui touchent la façon dont on traite nos corps, et nous sommes aussi appelés à être vigilants et exercer sur ces sujets. Peut-être une remarque sur Romains 8. On a lu et on a cité dans Romains 8 ces versets qui nous montrent que le salut de Dieu, il va jusqu'à nos corps. Et on a lu le verset 9 à 11. On a, Pierre-Éric tout à l'heure a cité aussi le verset 23. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Donc on voit que la délivrance, c'est la rédemption. Et on voit que le salut de Dieu, il va jusqu'à notre corps inclus. Et on attend, c'est-à-dire que notre corps, aujourd'hui, il est encore lié au péché. Et on parle de la chair, et la chair, c'est le péché qui habite en nous. Et on voit que le mot chair est très approprié, parce que la chair, c'est aussi le corps. Alors parfois, ça désigne la chair sans un sens négatif, le corps sans sens négatif. Parfois la chair, c'est le péché qui habite en nous. Mais on voit justement que c'est le même mot qui a été utilisé pour nous montrer que tant que nous sommes dans nos corps actuels, le péché est en nous. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, dans le salut de Dieu, il y a la délivrance de la puissance du péché. Et c'est Romains 7, Romains 8. Et mentionner trois étapes qui nous montrent l'étendue du salut de Dieu. C'est en rapport avec les péchés, nous sommes délivrés de la culpabilité des péchés que nous avons commis, première partie de l'Épître aux Romains. Deuxième partie, nous sommes délivrés de la puissance du péché au singulier qui habite en nous. Et il y aura la troisième partie que nous attendons avec espérance, c'est nous serons délivrés de la présence du péché. Et quand nous aurons la délivrance, l'adoption, la délivrance de notre corps, nous aurons donc ces corps de gloire, ces corps nouveaux, il n'y aura plus dans ces corps-là la présence du péché. Et ces corps-là, ce sont des corps glorieux, des corps de gloire, et on peut aussi, en rapport avec 1 Corinthiens 15, simplement mentionner que ce sont des corps célestes. Nous avons aujourd'hui un corps animal, comme dit 1 Corinthiens 15, et quand le Seigneur va venir nous chercher, nous aurons alors des corps célestes. Alors il me semble, et je parle sous le contrôle des frères, que ce sont nos mêmes corps, mais qui vont être transformés. Le corps animal deviendra un corps céleste.
Au 1 Corinthiens 6, au début, ce que nous avons lu déjà au verset 11, que nous sommes lavés, sanctifiés et justifiés, Et aussi à la fin, le verset 20 ou 19, déjà que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne sommes plus à nous-mêmes, c'est la position d'un enfant de Dieu. C'est la position qui appartient à chacun qui est venu, qui a cru à l'Évangile et qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Et cela ne dépend pas de la pratique. Ça ne dépend pas du service, de la vie, mais ça, c'est un fait. Dès le premier jour jusqu'au dernier jour que nous vivons sur la terre. Mais ce que nous trouvons au milieu de ce passage, cela nous montre la responsabilité que nous avons en relation avec ce fait que Dieu, dans l'Esprit Saint, habite dans le croyant. Et c'est vraiment touchant, comme nous avons déjà entendu, que Dieu habite dans un corps qui, comment il est dit au Romains 8, qui est affligé à la vanité, assujetti, qui est là-dessous. Et nous le voyons, si on regarde ici alentour, chacun a là une prothèse là, des cheveux qui ne deviennent pas mieux, on perd. Tout notre corps est assujetti à la corruption même. Comment il est possible que Dieu habite dans quelque chose, en quelque chose qui appartient à cette création? Il y a des frères qui peuvent l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais ce que me touche, c'est dans la nouvelle création, c'est dans la nouvelle vie où Dieu habite dans le chrétien, dans l'enfant de Dieu. Maintenant, c'est la question, nous avons une responsabilité que notre vie pratique correspond à cette position. Et ce qui est très important et intéressant ici, c'est le verset 17, où il est présenté l'unité, qu'il y a une unité entre, ici, l'exemple de le fornicateur avec la prostituée, mais il me semble dans le verset 17, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et cela nous montre la responsabilité que nous avons vue aussi avant déjà, la sanctification que nous appartient à Dieu, que nous ne sommes plus à nous, que ce n'est pas une liberté avec quelle sorte de choses on se mêle, se touche, mais qu'on se discerne, sanctifie des choses qui ne sont pas en communion, en relation avec la sainteté de Dieu. On est un seul esprit avec lui. Alors, on a le même sens, la même direction, et c'est cela que Dieu veut être glorifié, comme nous avons vu déjà, et aussi à la fin, glorifier donc Dieu dans votre corps. Un appel à notre vie pratique de correspondre à notre position.
Les versets 19 et 20 de ce chapitre 1 Corinthiens 6 sont comme une résumé, une conclusion de ce que l'apôtre avait dit. Et il rappelle deux vérités précieuses qui sont étroitement liées et qui ont en même temps une répercussion sur la vie pratique du chrétien. Les deux vérités sont, d'abord, vous êtes acheté par prix, et deuxièmement, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est vrai pour chacun de nous. Nous avons été achetés par prix. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas quel est le prix, mais la réponse nous donne Pierre, 1 Pierre 1, nous sommes Nous avons été rachetés, là il parle de rachetés, par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons été achetés. Nous avons un nouveau propriétaire. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, au diable, mais au Seigneur Jésus. Il est notre maître parce qu'il nous a achetés à cet haut prix, le sang qu'il a donné à la croix de Golgotha. Mais deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre ne dit pas que l'Esprit Saint habite en nous, la personnalité, mais dans le corps. Il insiste sur le fait que c'est le corps dans lequel le Saint-Esprit habite. Un temple, c'est une habitation, un demeure. Le Saint-Esprit n'est pas un invité d'honneur, mais il est le propriétaire, chers amis. Il habite en nous. Là où on habite, on est chez soi. On donne des directions. Si vous venez chez moi, là où j'habite, je dis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si je suis invité chez quelqu'un, je fais ce que celui qui m'a invité dit. Je ne suis pas celui qui donne des directions. Mais le Saint-Esprit habite en nous. C'est lui qui nous dirige, qui donne des ordres, des commandements. Et quel est l'impact pratique? Le dernier verset, « Glorifiez donc Dieu ». Mais l'apôtre ajoute quelque chose, « Dans votre corps ». Le corps qui a été acheté, le corps dans lequel l'Esprit Saint habite, doit maintenant glorifier Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, « glorifier Dieu » ? Le Seigneur Jésus a glorifié Dieu. Ça signifie qu'il a démontré qui est Dieu. Il a montré les perfections et les beautés de Dieu. Cela signifie glorifier Dieu. Ça veut dire, maintenant, nous étant achetés, nous avec nos corps dans lesquels le Saint-Esprit habite, nous sommes maintenant capables de glorifier Dieu dans le corps. Le corps, c'est l'instrument de nos activités, n'est-ce pas? Avec le corps, nous voyons, nous parlons, nous marchons, nous faisons des activités. Et tout cela doit être pour la gloire ou à la gloire de Dieu. Est-ce que les choses que nous voyons sont à la gloire de Dieu? Par exemple, sur l'Internet, c'est à la gloire de Dieu. Glorifiez Dieu, donc, dans vos cœurs, vos corps, avec vos yeux, nos oreilles, ce que nous entendons. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? C'est une question qui se pose, n'est-ce pas? Nos paroles. Ce que nous disons avec nos bouches, nous utilisons nos bouches, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Nos mains, les activités, les mains parlent de l'activité, nos activités quotidiennes, à la gloire de Dieu ou non? Nos pieds, ça parle du marche, n'est-ce pas? Les chemins que nous faisons, c'est à la gloire de Dieu ou à quelle gloire? À notre propre gloire? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça, c'est une exhortation, ou je dis plutôt un encouragement, une motivation très, très pratique. Ça touche tous les domaines de la vie du chrétien. Nous sommes un temple du Saint-Esprit, notre corps. Nous sommes achetés par prix. Et maintenant, nous devons glorifier Dieu. dans nos cœurs. C'est une grande responsabilité d'un côté, mais d'autre côté, c'est aussi une honneur, n'est-ce pas, pour nous. Nous, faibles hommes, avec un corps d'abaissement, des corps faibles, nous pouvons quand même, déjà maintenant, glorifier Dieu dans nos corps.
Nous trouvons l'exemple de l'apôtre Paul en acte 20, où il mentionne plusieurs éléments de son corps qu'il a mis au service du Seigneur. D'abord, il est dit au verset 13, avant d'arriver à Éphèse, « Or pour nous, ayant pris les devants sur un navire, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions prendre Paul à bord, car il l'avait ainsi ordonné, étant dans l'intention d'aller lui-même à pied. » Voilà, on utilise ses pieds dirigés par l'Esprit. On l'a mentionné tout à l'heure, le Seigneur emmène son serviteur par son Esprit à des endroits précis, des endroits même géographiques ou physiques. Ensuite, il mentionne, il y a l'enseignement qui est donné à Éphèse à partir du verset 17, mais on peut lire au verset 20, « Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables. » L'enseignement qui est donné par l'Esprit Saint, des choses profitables. Il y a un autre exemple pour la bouche, ou la langue, c'est au verset 27, je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Pas seulement une partie, on en a parlé ce matin, l'Esprit dirige dans toute la vérité, pas seulement pour le comprendre, mais aussi pour le communiquer. Alors au verset 25, il parle de son visage. « Voici moi, je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. » Il est possible aussi de communiquer beaucoup au travers du visage, au travers du regard, au travers du sourire. Dans l'Ancien Testament, on reconnaissait Moïse après sa communion avec Dieu, son visage rayonnait. Et je pense que l'Esprit Saint qui est dans notre corps rayonne au travers de notre visage lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Et puis, il parle de ses mains, au verset 34, « Vous savez vous-même que ses mains, c'est là, les siennes, ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. » Voilà, l'activité au quotidien, pas seulement pour ses propres besoins, mais pour ceux des autres. Se mettre au service des autres, c'est aussi un résultat du travail de l'Esprit-Saint. La générosité n'est pas innée dans notre nature charnelle. Dépenser son temps, son énergie pour les autres. Et puis il parle aussi de ses genoux. Au verset 36, ayant dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Voilà, on a parlé aussi tout à l'heure de la prière qui fait partie de l'activité de l'Esprit en nous, sur les genoux. C'est-à-dire une marque de dépendance. Quelle est l'utilité de nos genoux? Devant quoi nous agenouillons-nous? Et puis il est parlé aussi du cou. C'est au verset 37. Et se jetant au cou de Paul, il le couvrait de baisers. Vous voyez? Cette intimité, il y a une intimité convenante aussi entre les corps de ceux qui sont rachetés. N'oublions pas aussi, il est dit, saluez-vous par un saint baiser. Pas juste un baiser, c'est un saint baiser. Donc il y a aussi un aspect entre les corps des rachetés qui est convenant. Et il faut que, comme on l'a lu tout à l'heure en 1 Corinthiens 5, verset 23, c'est Dieu qui va nous rendre à tous les niveaux de notre être, y compris le corps, irréprochable.
Peut-être encore comme un petit résumé de ce passage. On y trouve, si j'ai bien compté, cette expression en relation avec notre corps qui montre le privilège chrétien que nous avons. Et Paul utilise cette fête pour nous avertir des dangers de cette immoralité. Alors, juste brièvement, 13 à la fin, il dit que notre corps est pour le Seigneur. Deuxièmement, verset 14, il dit « Dieu nous ressuscitera ». Alors, ce n'est pas comme en Éphésiens, la résurrection spirituelle, mais c'est la résurrection du corps. Dieu nous ressuscitera, ce qui montre la valeur de notre corps. Troisièmement, dans le verset 15, nos corps sont des membres de Christ. Et ce qui est très proche, verset 17, nous sommes unis au Seigneur. Cinquièmement, verset 19, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Numéro 6, à la fin du verset, vous avez été achetés, alors la rédemption, le Seigneur a acquis les droits sur nous, y inclut le corps. Et nous venons de mentionner le septième point, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Sur l'autre côté, il y a un argument concret que Paul utilise qui a à faire avec notre corps et la conséquence de ce péché. Dans le verset 18, il dit « Fuyez la fornication, quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps. » Alors il y a cet argument où Paul montre le caractère très spécial de ce péché. Il dit que c'est le seul péché qui n'est pas en dehors du corps, mais qui est directement contre le corps. Mais les sept expressions qu'on a lues, ce sont des arguments qui sont basés sur notre relation avec le Seigneur, sur notre position en tant que chrétien, lié avec lui, uni avec lui, le temple acheté, etc. Et j'aimerais juste y rajouter une expression de 2 Corinthiens 4. Dans le verset 10, parce que c'est une expression très très belle, où Paul dit « Afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. » C'est le but, c'est ce que Dieu désire. Et quelle belle chose, la vie de Jésus. C'était cette vie parfaite. Et Dieu nous a donné un corps pour nous donner une occasion. Il nous envoie même des troubles, comme Paul, c'est ce dont Paul parle dans ce verset avant. Il nous envoie des difficultés qui sont pénibles, mais il dit le but, c'est que la vie de Jésus soit manifestée dans nos corps. Cela souligne encore une fois que nos corps sont neutres. Nos corps ne sont pas mauvais. Alors ce n'est pas que le corps est pécheur. Oui, c'est le péché qui habite dans le corps. Le Seigneur avait bien un corps. Le problème, ce n'est pas d'avoir un corps. C'est vrai que nous avons le problème du péché aussi longtemps que nous avons ce corps. Mais en principe, c'est une coïncidence. Le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, c'est le péché dans le corps qui veut qu'on utilise le corps pour des buts mauvais. Alors, le corps est un instrument que Dieu nous a donné pour le glorifier, pour que la vie de Jésus soit manifestée dans ses corps.
Peut-être il y a aussi une connexion entre les versets 19-20 du chapitre 6 du 1er Corinthiens et c'est ce qu'on a lu dans Romains 8. J'aimerais bien faire une connexion, essayer de faire une connexion là.
Ce matin, nous avons
appris que c'était utile que le Seigneur envoie le Saint-Esprit, que c'est avantageux, je crois, comme c'est écrit en Jean. Si on peut dire que le Saint-Esprit est donné par le Fils et par le Père, les deux donnent le Saint-Esprit, alors peut-être on peut aussi dire, en faible image, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit est un cadeau. Il nous a offert un cadeau. Ce n'est pas la question pour l'accepter ou non l'accepter, vous comprenez bien. Si je reçois un cadeau de quelqu'un qui m'a acheté à prix, qui a donné tout pour moi, tous, alors, qu'est-ce qu'il y a la valeur que ce cadeau a pour moi ? C'est une question très pratique. Ça se lie aussi au sujet qu'on a eu l'année dernière avec les deux natures. Et c'est une question qui me touche profondément chaque jour. Et c'est une responsabilité, une question d'amour envers le donateur de cet don, envers Dieu et envers le Fils qui a donné le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait, il n'a pas donné quelque part, mais il habite en nous. Et avec ça, je tourne au Romains 8, au verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. » Alors, c'est une garantie pour nous d'être avec lui. C'est la garantie pour le but du chrétien. Le Saint-Esprit est en nous, il habite en nous, il lui nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est la garantie, et comme Ephésiens dit, les arts, petite autre pensée là-bas, mais c'est la garantie que nous aussi, nous serons auprès de lui. Quelle grâce et quel amour du donateur du Saint-Esprit qu'il y a pour nous.
Alors, on a déjà vu qu'il y a des applications, conséquences très pratiques à ces vérités si élevées qui nous ont été présentées, que la parole nous présente, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vu en particulier au verset 14, la conséquence pratique de cette vérité, vos corps sont des membres de Christ. Conséquence pratique, c'est l'interdiction de la fornication. Je n'y reviens pas, on en a parlé. Et puis alors on a au verset 19, une autre pensée qui est très liée, mais c'est vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et la conclusion, donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, on peut donner simplement encore un exemple pratique, en citant aussi ce qui est dit au chapitre 3, à propos du temple de Dieu. Alors c'est un autre temple, c'est le temple de l'Église, on n'en a pas parlé, ce n'est pas le sujet, mais l'Église aussi est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit collectivement. Ce qui est dit au verset 16 du 1 Corinthiens 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes, alors collectivement cette fois-ci, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et verset 17, « Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. » Et donc cette affirmation du verset 17, bien sûr, s'applique pour l'Église, et aux faux docteurs en particulier, mais on peut aussi, je pense, transposer d'affirmation pour nos corps, qui sont aussi le temple de Dieu, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu. Donc cette application de ne pas corrompre, détruire, c'est le même mot, ou abîmer, en quelque sorte, faire du mal à nos corps, parce que nos corps sont le temple de Dieu. Et ça permet de répondre à pas mal de questions actuelles dans lesquelles on n'a pas d'instructions formelles sur la parole, sur ceux qui se font des incisions ou des tatouages ou toucher à son corps, c'est en fait toucher au quelque chose qui, contrairement à ce que le monde dit, mon corps, mon choix, j'en fais ce que je veux, non. C'est nos corps sont le temple de Dieu et donc nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons, nous devons les respecter, les honorer. Touche même, peut-être une parenthèse, mais sujet aussi assez pratique, celui du tabac. On peut remarquer que la relation des. La manière dont le tabac, le fait de fumer, était considéré par les croyants, a beaucoup évolué au cours du temps. Au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, beaucoup de croyants fumaient. Et comme quelques-uns le font même d'été, même de gros fumeurs, quelques fois on fait même remarquer, certains des commentaires que nous utilisons ont été écrits dans des nuages de fumée. Et ça a choqué personne en quelque sorte. Pourquoi ça a autant changé? Parce qu'actuellement, c'est quand même plus le cas. Mais on n'a pas de verset dans la parole sur le tabac, pour cause. C'est une habitude qui est quand même relativement récente. Il y en a sur l'alcool, mais pas sur le tabac. Mais voilà, s'il y a aussi ce verset-là, je crois que ça a autant changé depuis qu'on sait que l'usage du tabac est nocif. Pour le corps, c'est la corrélation avec le cancer du poumon a été quand même clairement démontrée. On sait qu'en fumant, on abîme nos corps. Et donc, je pense simplement, avec ce verset, ça peut être une réponse si des jeunes demandent qu'est-ce que parole dit à ce sujet, de dire qu'on n'a pas le droit d'abîmer en quelque sorte volontairement nos corps. Voilà, un simple exemple d'application pratique de ces passages.
On ne veut de fumer, j'ai un verset dans ma Bible, dans Ézéchiel 8, verset 17. Certains frères qui pensent qu'il y a une sorte de... Ils ont quand même... Le Seigneur, il n'était pas content de son peuple, surtout Juda, car il approchait à leur nez une sorte de désert. Pour le fumer, Dieu n'était pas content. Et si un frère qu'il peut expliquer mieux que moi, donc Ézéchiel 8, verset 17.
Dans ma Bible allemande, il y a une note dans Ézéchiel 8, 17 qui dit que peut-être c'est une allusion à une coutume selon laquelle pour adorer le soleil, on mettait des branches devant le nez. Alors, il semble que c'est autre chose. La question d'Éric, je pense qu'Éric sait très bien répondre à sa question, mais juste une proposition. Il dit dans Matthieu 8 que tu as cité que ce verset fut accompli dans la vie du Seigneur. Alors pendant son ministère, quand il a guéri quelqu'un, il a ressenti dans son âme que c'était une conséquence du péché qui est entré dans le monde, il a souffert dans ce sens, il a porté ses douleurs dans ce sens, dans sa vie. Quant à l'application fausse, des fois, il est enseigné que Ésaïe 53, verset 4, fait référence à l'œuvre de rédemption du Seigneur et qu'il ait souffert pour que les croyants ne doivent plus endurer des maladies. Ce qui est faux, bien sûr, le Seigneur a souffert pour nous, oui, mais il a aussi racheté nos corps, mais le corps, il a payé le prix, mais nous attendons encore l'effet. Alors, la rédemption du corps dans le plein effet qui aura lieu lors de l'enlèvement.
En fait, Ésaïe 53, c'est ce qui sera dans la bouche du résidu pendant l'attente du Seigneur Jésus pour sa venue en délivrance. Et c'est là où ils vont reconnaître effectivement que la première venue du Seigneur Jésus était pour réaliser toutes ces choses, mais ils ne l'ont pas cru. Tout à l'heure, on a fait allusion au fait de acheter à prix. Dans l'Ancien Testament, il y avait la consécration des sacrificateurs. et il mettait une goutte de sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Et comme pour en image ou en symbole pour nous, c'est tout ce qui entre dans ma tête, est-ce que c'est sanctifié par l'œuvre du Seigneur ? Tout ce que je fais, ma manière de marcher, est-ce que tout cela est conforme à la croix, en fait, finalement ? Et donc, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'ai été acheté à prix. Et simplement une petite parenthèse très courte, en 1 Corinthiens 10, quand il est parlé de la communion du sang du Christ, eh bien, c'est exactement cela, c'est que nous disons, nous déclarons lorsque nous prenons la scène que « Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'ai conscience que maintenant, par la croix, je me souviens que maintenant, ma vie est aussi conforme à ce que je déclare lorsque je prends la scène. » 1 Corinthiens 11, c'est le souvenir, mais 1 Corinthiens 10, c'est « Je déclare que je ne m'appartiens plus à moi-même. »
Cela a été dit, donc, vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, c'est un fait. Et vous n'êtes pas à vous-même. Ensuite, car vous avez été acheté à prix. Est-ce que cela ne parle pas à nos cœurs ? Nous avons coûté cher au Seigneur. Cela a été dit par le sang précieux de Christ. Et pensons aussi dans Matthieu 14, à celui qui avait le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Et ensuite, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles prix, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Oui, combien j'ai coûté cher au Seigneur. Alors, est-ce que cela ne va-t-il pas me pousser à glorifier Dieu dans mon corps ? Oui, on l'a entendu, cela se manifeste de bien des manières différentes. On a parlé de l'apôtre Paul, notamment ses mains, ses pieds. Il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est nos paroles. Que faisons-nous avec nos paroles ? Là aussi, nous pouvons glorifier Dieu par nos paroles, comme nous pouvons aussi blasphémer Dieu. Et dans Jacques 3, où il est parlé de la langue, il est parlé aussi de tenir tout le corps en bride, tout le corps. Voilà comment nous pouvons glorifier Dieu, que ce soit par notre corps, par notre cœur, que nous réalisions, oui, j'ai coûté cher au Seigneur. Et maintenant, eh bien, que par amour, pour répondre à son amour, que je puisse faire les efforts, parce que oui, ça demande des efforts, mais avec le Saint-Esprit. Parce que si je fais des efforts par moi-même, je n'y arriverai pas. Mais nous avons justement le Saint-Esprit en nous, qui est une puissance et qui est là pour nous aider. Qu'en effet, nous n'oublions pas le prix que nous avons coûté. Je pense qu'on ne s'est pas arrêté au verset de 2 Timothée 1, verset 14. « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Nous savons, nous vivons dans des mauvais temps. Le bon dépôt se perd de plus en plus. Alors, par l'Esprit qui habite en nous, gardons le bon dépôt. Combien l'ont perdu ? Combien s'en sont allés ? Combien annoncent des choses qui ne sont pas la parole ? Que le Seigneur nous aide, par l'Esprit, à garder le bon dépôt jusqu'au moment de son retour.
Une remarque peut-être aussi sur le verset 13 qui a été lu, même si ce n'est pas le verset qui en rapport avec le sujet du temple, c'est le verset 14, l'Esprit Saint qui habite en nous. On a lu aussi le verset 13, « Et un modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. » Ce modèle aussi exposé, sommaire, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? C'est que l'apôtre encourage Timothée à mettre par écrit, en quelque sorte, un résumé de ce qu'il avait entendu de la bouche de Paul. Ces saintes paroles que tu as entendues de moi et qui étaient des paroles inspirées. Donc c'était le ministère inspiré de l'apôtre que Timothée est encouragé à mettre par écrit pour lui-même, en quelque sorte, comme support à son propre enseignement. Ce ne sont pas ces résumés-là qui ont été incorporés plus tard dans la parole de Dieu, mais directement les lettres écrites par Paul, dictées par lui, pour faire partie du Nouveau Testament. Mais ça nous souligne juste au passage, c'est pas tout à fait le sujet de ce soir, c'est plutôt celui de la session précédente, mais de l'importance que la parole de Dieu ait été écrite pour être conservée, transmise. Si il avait fallu se compter sur la transmission orale de génération en génération, on peut bien craindre qu'elle ait été beaucoup déformée, puisque même avec la parole écrite, les choses se sont beaucoup déformées. Donc, qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas redécouvert la parole écrite ? Et je signale juste cette remarque, nous utilisons un peu indifféremment, enfin, de façon interchangeable, ces différentes expressions, les Écritures, l'Écriture sainte, la parole de Dieu, effectivement, c'est la même chose. Mais on peut quand même remarquer la différence entre les deux termes. Et d'abord, la parole a d'abord été orale, les prophètes ont parlé, et ensuite leurs prophéties ont été écrites. En particulier, dans certains cas, les apôtres aussi ont enseigné oralement et ensuite ça a été écrit, donc il y a ce côté-là. Mais pour nous aussi, ça veut dire d'un côté, il y a ce côté des Écritures, ce qui demeure et qui est objectif, en quelque sorte, qui s'adresse à tous, qui ne change pas. Et on voit bien le Seigneur, quand il s'agit de répondre à Satan, dit « il est écrit, il est écrit ». Et parce que c'est quelque chose qu'on peut citer, opposer effectivement à une erreur ou à une fausse doctrine, combien c'est précieux. Et puis en même temps, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire qui doit être appliquée. C'est est-ce que Dieu me parle dans les Écritures ? Aussi ce côté-là, est-ce qu'on en fait une application personnelle, vivante ? À partir d'un texte qui est figé, écrit, et qui pourrait rester lettre morte s'il n'y avait pas l'action du Saint-Esprit, justement, pour l'appliquer. Ce rôle du Saint-Esprit, c'est de donner, en quelque sorte, une voix aux Écritures pour l'appliquer à nos cœurs, à nos circonstances. Et les deux choses sont importantes. Il y a le côté objectif, ce qui est écrit, puis le côté subjectif, ce que je reçois, ce que je comprends par le Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit applique cette parole, ces Écritures à mon esprit, à mes circonstances. Et je souligne juste une expression en rapport avec ça dans 1 Samuel 15, plutôt une remarque globale sur la journée plutôt que sur le sujet du temple. 1 Samuel 15, verset, la fin du premier verset. Samuel dit à Saül, « Maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. » Et puis malheureusement, on peut lire au verset plus loin dans le chapitre, il dit, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Verset 11, voilà. Il n'a point exécuté mes paroles. Et puis plus loin, voilà. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Donc il n'avait pas exécuté les paroles, il avait été exhorté à écouter la voix des paroles de l'Éternel et il ne l'avait pas fait. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Et au contraire, il dit lui-même au verset 24, j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté leur voix. On voit ce contraste entre écouter la voix de l'Éternel et puis celle du peuple. Et pour nous, c'est un avertissement aussi. Nous avons la parole écrite, et mais est-ce que nous écoutons la voix de cette parole, ce que Dieu a à nous dire personnellement à travers ses paroles? C'est une responsabilité, et en fait, cette voix des paroles, c'est justement la voix de l'Esprit Saint. On a chanté justement, j'ai rechanté cette strophe, que mon âme en silence écoute la douce voix de ton esprit. Comment est-ce que l'Esprit nous parle? C'est quand même à travers la parole. Mais justement, en appliquant de façon personnalisée, en quelque sorte, cette parole à nos cœurs, qu'elle devienne vraiment pour nous la voix de Dieu.
J'aimerais faire juste deux brèves remarques en relation avec notre sujet. Premièrement, et ça complète peut-être la question, ou implicitement en tout cas la question d'Éric, la maladie est une chose qui peut atteindre le croyant. C'est clair, l'apôtre Paul avait cette infirmité dont il parle, et il en parle aux Galates en disant « Vous ne m'avez pas repoussé malgré cela ». Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de la maladie d'Épaphrodite qui avait été malade près de la mort. Et Dieu, dit-il, a eu pitié de moi, de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Il n'y a aucune pensée de jugement, ni à l'égard de Paul, ni à l'égard d'Épaphrodite, à travers cette infirmité ou cette maladie. En revanche, on peut se dire que, à l'égard de Paul, il y avait une discipline préventive pour le garder de l'orgueil. À l'égard d'Épaphrodite, la maladie d'Épaphrodite était en quelque sorte une mise à l'épreuve de la foi en vue de témoigner de la grâce et de la bonté de Dieu. Et donc on peut dire que, oui, Dieu se sert, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, dans nos corps nous pouvons faire aussi, à travers la faiblesse, l'expérience d'un côté peut-être de la discipline de Dieu, pleine de sagesse, et peut-être que l'un ou l'autre peut se dire que certaines infirmités sont précisément liées à cette discipline, Dieu ne veut pas nous laisser faire n'importe quoi ou nous enorgueillir, et d'autre part, à travers bien des épreuves, goûter aussi la bonté de Dieu qui prend soin de nous, qui apporte des délivrances aussi dans les maladies de nos corps. Deuxième remarque que je veux faire très rapidement, dans un temple, il y a l'aspect extérieur de l'édifice, mais il y a aussi ce qui est dedans. Et au-dedans d'un temple, il y avait les trésors. Au-dedans du temple de Salomon, il y avait bien sûr tous les trésors que les rois d'Israël, et même avant les rois, avait recueilli. La parole, quand elle parle du temple, le Nouveau Testament, quand il nous dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, ne nous parle pas du trésor qui est dedans, elle nous parle de notre responsabilité. Quand elle nous parle du trésor, elle compare nos corps à des vases de faiblesse, à des vases de terre, et le trésor, et nous avons ce trésor dans des vases de terre. C'est la sagesse de Dieu qui, en quelque sorte, nous montre notre responsabilité à l'égard de ce temple, nous montre notre fragilité, mais la richesse du trésor à travers les vases de terre.